Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans et les portables aux moins de 11 ans. Voilà les deux principales recommandations du rapport remis à Emmanuel Macron aujourd'hui. On vous explique tout dès le début de ce journal. Deux cadres de la France insoumise convoqués par la police pour apologie du terrorisme. Mathilde Panot et Rima Hassan vont devoir s'expliquer sur leur prise de position après l'attaque du Hamas sur Israël. Et puis Papy fait de la sécurité. Des centaines de retraités sont formés pour encadrer les Jeux Olympiques.
Le comité scientifique sur les écrans rend ses conclusions aujourd'hui.
Annoncé en janvier par Emmanuel Macron, ce groupe de travail composé de pédopsychiatres, de neurologues ou encore d'addictologues va remettre au président son rapport, le fruit de plusieurs mois de travail sur l'hyperconnexion des enfants et ses conséquences pour leur santé et leur développement. Ce rapport, Romain Houg appelle à reprendre le contrôle et formule des recommandations très claires.
Oui, des préconisations parfois radicales comme l'interdiction pure et simple des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Même chose dans les crèches, les maternelle, pas de télé, pas d'ordinateur. Concernant le téléphone portable, les experts recommandent de l'interdire jusqu'à 11 ans. Il cause des problèmes de myopie, de sommeil, de sédentarité qui peut conduire à l'obésité. Et après 11 ans, on utilise le téléphone de manière extrêmement limitée, sans internet les premières années et pas de réseaux sociaux avant 15 ans.
Et justement, Romain, l'impact des réseaux sociaux est clairement pointé du doigt dans le rapport.
Oui, des experts carrément bousculés par ce qu'ils ont vu. L'hyperconnexion met en péril l'avenir de nos ados, de notre société, de notre civilisation, écrivent-ils. Ils accusent, sans jamais les nommer, des réseaux comme TikTok, Instagram, Snapchat de mettre en place des stratégies de captation de l'attention des enfants dans le but de les enfermer sur les écrans et de les monétiser, mais également de ne pas réguler leur contenu, les exposant à de la violence, de la pornographie, pouvant entraîner les ados les plus vulnérables à de l'anxiété et de la dépression.
Les précisions de Romain Houg. Lui voulait mettre en place la tenue unique pour les enfants de son école élémentaire de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Il est depuis la cible de tracts et accusé d'être islamophobe par un collectif de citoyens anonymes. Alors, pour sa sécurité, ce directeur d'établissement a décidé de ne pas venir au travail. Hier matin, sur les réseaux sociaux, il a interpellé le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale, qui a depuis déclenché un signalement au procureur et renforcé la sécurité du directeur. Une décision qui ne fait pas l'unanimité sur place, Nicolas Trénaud.
Derrière l'uniforme, peut-on lire sur ce tract, le directeur cachait une obsession anti-musulman. Tract distribué devant l'école mardi, ce directeur, Nicolas Bourrez, s'est mis en arrêt maladie de peur que ce papier déclenche une vague de haine.
On est dans la mise en danger de quelqu'un sous prétexte qu'on pense pas la même chose que lui. Eh ben, on lui colle une étiquette d'islamophobie et on sait très bien où ça mène aujourd'hui. Et on sait très bien où ça a mené d'autres enseignants, d'autres collègues. Et il faut absolument que la société, que l'institution éducation nationale en tire les leçons et le questionnement.
La plupart des parents rencontrés devant l'école ne se sont pas intéressés à ce tract, mais quelques-uns jugent la décision du directeur exagérée car il n'a reçu aucune menace, ce qu'il confirme. À l'inverse, cette grand-mère d'une élève ne comprend pas pourquoi la religion s'invite dans un débat sur l'uniforme.
C'est la politique ça, ils mélangent tout.
Le comité de Neuilly-sur-Marne opposé à l'uniforme assume cette accusation d'obsession anti-musulman. Le tract cite des propos tenus par le directeur sur la présence de signes religieux à l'école dans le magazine Causeur, alors qu'il reconnaît lui-même n'avoir signalé aucune atteinte à la laïcité dans son école.
À Châteauroux, l'adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir tué au couteau le jeune Mathis a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Sa mère est elle aussi mise en examen. Et puis Gérard Depardieu, lui, sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle sur deux femmes. On y revient dans le journal de 7h30.
6h34 sur RMC. Le Hamas prépare sa réponse à Israël.
Pour une trêve de 40 jours à Gaza en l'échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Et elle devrait être rapide. Cette réponse promet un cadre du Hamas bientôt 7 mois après le début de la guerre. En France, plusieurs figures de la France insoumise vont devoir s'expliquer ce matin. Mathilde Panot et Rima Hassan, convoquées toutes les deux par la police pour apologie du terrorisme, des accusations qu'elles contestent. Mais surtout, Cyprien Pézeril, les deux élus dénoncent des attaques à la démocratie.
L'une est convoquée pour une série de tweets, l'autre pour le communiqué du groupe Insoumis. Le jour des attaques du Hamas, Rima Hassan, figure de la cause palestinienne, candidate aux européennes, et Mathilde Panot, à la tête du groupe Insoumis, ont accepté de se rendre à ces auditions libres. Toutes deux assurent qu'elles font suite à des plaintes d'associations proches du pouvoir israélien. Des convocations pour apologie du terrorisme qui ne présagent pas d'éventuelles poursuites judiciaires à l'issue. Qu'importe ce que décidera la justice, ça crée un précédent dangereux, s'insurge un insoumis, alors que le camp mélenchoniste dénonce, je cite, une criminalisation des voix pro-palestiniennes. Si l'indignation insoumise est réelle, il y a aussi une part de victimisation, dénonce un élu de gauche. Ça nous permet de mobiliser, reconnaît un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui participera comme d'autres à un rassemblement de soutien ce matin.
Et puis après la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po Paris, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de suspendre ses financements à l'établissement en attendant, dit-elle, que la sérénité soit rétablie. Il est 6h35 sur RMC, des retraités pour assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Depuis plusieurs semaines, France Travail, l'ancien Pôle emploi, les démarches et a même entamé des formations pour les volontaires, une nécessité face au manque de bras à 3 mois de l'événement. Et Aurélien Tiercin a pu assister à l'une de ces formations pour RMC.
Ils sont 7 dans cette classe à Paris. Parmi eux, Jean-Yves, 65 ans, lunettes et cheveux blancs.
Ça fait de nombreuses années qu'on n'est pas retourné sur des bancs d'école, mais on a avantage d'avoir des bons formateurs.
C'est un ex-commercial dans la moto, il voulait absolument participer aux JO.
C'est quand même quelque chose de fabuleux de recevoir les Jeux Olympiques à Paris et de pouvoir y participer en tant qu'agent de sécurité. Oui, ça nous enchante.
Les retraités sont formés à la palpation, à la surveillance, à détecter des armes.
Non, des craintes, on en aura toujours, mais on n'y pense pas parce que je pense que ça va être une manifestation qui devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison puisqu'ils ont tout mis en place pour les tentatives d'attentats et tout. Je pense qu'on est préparé quand même, on a des ressources pour pouvoir parer d'éventuelles attaques comme ça.
Aucun critère physique ni expérience n'est demandé. Le formateur Tariq Benrabé voit même chez les retraités une grosse valeur ajoutée.
95% des situations se règlent avec le dialogue. Quand vous avez une personne justement d'un certain âge qui s'adresse à vous, vous n'allez pas avoir la même réaction. Ça apporte une sorte de sagesse.
Pour Jean-Yves, autre avantage.
Ça permet de travailler un petit peu et de récupérer un petit peu d'argent, ça fait du bien.
Depuis le mois de mars, plusieurs centaines de retraités sont ainsi devenus agents de sécurité en Île-de-France.
Il y a du foot ce soir, début des demi-finales de la Ligue des Champions et avant Dortmund-PSG demain, le Real Madrid se déplace chez le Bayern Munich à 21h ce soir. Match à suivre sur RMC à la radio et à la télé, c'est sur RMC Sport 1.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 15, Canouane. L'outsider, c'est le numéro 10, Winterland. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean, il est 6h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Sciences Po Paris, vendredi, la Sorbonne hier et peut-être bientôt Reims ou Lyon. La mobilisation des étudiants pour Gaza prend de l'ampleur, quitte à perturber les cours et les examens. Est-ce qu'ils ont raison d'imiter les étudiants américains qui se mobilisent depuis quelques semaines dans les universités américaines? C'est à vous de nous dire. Venez donc témoigner et défendre votre point de vue. On vous attend pour en débattre tous ensemble au 32-16. On sera avec Nicolas, Manu, Charles et vous. À tout de suite.
RMC Police Justice.
C'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC avec Margot Boult ce matin. Bonjour Margot.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez comment un rappeur américain mondialement connu a passé la nuit en garde à vue ce week-end à Paris.
A Boogie With That Hoodie, c'est le nom de ce rappeur américain, connu notamment pour ça. 200 millions de vues sur YouTube rien que sur ce morceau, Look Back At It. En tout, 7 millions d'abonnés sur Instagram, 20 millions d'écoutes par mois. Bref, une star internationale du rap, une sorte de Jul américain, une star en pleine tournée mondiale. Et c'est dans le cadre de cette tournée qu'avant-hier soir, le rappeur finit un concert à la Cigale à Paris. Il est 2h du matin, il décide d'aller en boîte de nuit avec quelques amis, tous américains. Direction le Boom Boom, juste à côté des Champs-Élysées. À son arrivée, le chanteur est filmé. Grosse chaîne dorée autour du cou, bouteille de champagne à la main. Très sûr de lui, il fonce vers l'entrée, double toute la queue. Mais là, star américaine ou pas, les videurs l'arrêtent et lui refusent l'entrée. Il essaye de forcer le passage, de soulever une barrière pour rentrer par le côté. Le ton monte, les agents de sécurité finissent même par appeler la police. Le rappeur et ses amis sont interpellés, placés en garde à vue pour la nuit au commissariat du 16e arrondissement de Paris, avant d'être relâchés sans aucune charge hier. Et heureusement, puisque le chanteur a rendez-vous sur scène demain soir à Manchester devant 24 000 personnes.
L'histoire du jour racontée par Margot Boult avec le service police-justice d'RMC. Merci Margot.
RMC, Apolline Matin.
Et tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC. On va surveiller vos messages sur Direct Studio autour de cette question. Faut-il interdire les mobilisations pro-palestiniennes dans les facs françaises? Ça fait réagir Jacques qui nous écrit: ces étudiants d'extrême gauche soutenus par la France insoumise ont des causes bien sélectives. On ne les entend pas sur ce qui se passe en Iran, sur le sort des Ouïghours. Je ne les vois pas mener le combat contre la Russie qui bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes. Ce sont des petits bobos installés bien au chaud. Je trouve tout à fait normal de les faire évacuer par les forces de l'ordre. Voilà ce que pense Jacques. À l'inverse, Samy nous dit: les étudiants ont le droit de se mobiliser et de bloquer. Quand c'est du côté de la SNCF, et les cheminots bloquent. C'est comme ça qu'on fait grève. Voilà ce que pense Samy. Ça vous fait réagir vous aussi. Tiens, Gauthier qui nous dit: moi j'en peux plus de voir LFI tenter de semer le chaos et de diviser le pays. Il faut arrêter d'instrumentaliser les facs, dit Gauthier.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42 et vous êtes bien sur RMC.
À vous de nous dire.
Après Sciences Po Paris, vendredi, nouvelle mobilisation hier d'étudiants pro-palestiniens. Ça, c'était à la Sorbonne, vous l'entendez. La Sorbonne, la prestigieuse fac au plein cœur de Paris. Des amphithéâtres évacués, des examens annulés à partir de midi et pour toute la journée hier. Des étudiants mobilisés, puis dispersés par les forces de l'ordre. Un mouvement qui imite celui des États-Unis. Vous en parliez, Nicolas. Ces prestigieuses universités profondément divisées sur la guerre entre le Hamas et Israël, où les étudiants sont mobilisés, hein, ils sont mobilisés non-stop depuis plus de 10 jours.
Ah oui, ça a commencé à Columbia, à New York, ça a gagné maintenant tout le pays. La plupart des facs américaines ont des mouvements de blocage pro-palestinien.
Alors que veulent-ils? Voilà ce que répond cette étudiante de la Sorbonne, interrogée hier par Nicolas Repère.
On se taira pas, même s'ils veulent qu'on arrête, en fait, parce que le génocide, il est loin d'être fini. La colonisation, elle est loin d'être finie aussi. Donc, par rapport à ça, on va continuer. Il y a le 1er mai où, en fait, on va appeler à faire des cortèges en soutien à la Palestine au sein de la fête des travailleurs, parce que c'est aussi ensemble, en fait, qu'on peut imposer au gouvernement d'arrêter, en fait, d'être complice du génocide et de la colonisation. Et pour nous, c'est ça qu'il va falloir, en fait, qu'on arrive à mener jusqu'au bout.
Alors, est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser, de bloquer les universités? Est-ce que vous comprenez ces étudiants? On en débat avec vous tous au 32-16. Avant que j'interroge, tiens, l'un de ceux qui était aux côtés des étudiants hier, le député La France Insoumise, Louis Boyard, qui s'est carrément interposé entre les étudiants et les forces de l'ordre. Il y a déjà Christian et Ali qui sont avec nous au 32-16. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Christian, vous êtes porteur de presse, donc levé depuis longtemps, là, j'imagine, à 6h43.
Ouais, ouais, je commence à 2h, oui.
Voilà, vous avez déjà fait la tournée. Merci à vous d'amener.
Ouais, je viens de faire mon dernier client.
Voilà, d'apporter les informations sur les routes, en l'occurrence les routes du Val d'Oise, puisque vous êtes à Franconville. Christian, vous en pensez quoi, vous, des étudiants qui bloquent?
Moi, je suis contre les blocages. Je suis pour les manifestations et contre les blocages. Ouais. J'ai fait mes 68, donc je suis peut-être mal placé. À l'époque, on a peut-être bloqué beaucoup de choses. Mmh. Mais là, je suis contre. Je vois pas à quoi ça rime. Parce que, en fait, j'entends des intervenants qui disent que c'est le meilleur moyen de se faire entendre. Mais je comprends pas de qui ils veulent se faire entendre. Qu'est-ce que peut faire la France contre ce que fait Israël? Rien. C'est ça que je ne comprends pas.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous estimez que la cause est trop éloignée.
Même qu'on manifeste et qu'on donne son soutien. Moi, j'étais pour l'intervention d'Israël et je suis contre leur façon de faire. Mais par contre, autant les manifestations aux États-Unis peuvent avoir une influence sur le gouvernement qui lui livre des armes à Israël. Mais en France, qu'est-ce que ça va donner à leurs manifestations? Ça ne fera pas avancer la chose, quoi. C'est ça que je veux dire.
C'est-à-dire que quoi? Ils se font plaisir sans...
Je pense que c'est surtout la France Insoumise qui se fait plaisir. Eux, ils aiment bien mettre le bazar.
Oui, ou en tout cas, là où il y a bazar, effectivement, ils sont venus. Il y avait un certain nombre de députés, la France Insoumise, qui étaient devant Sciences Po Paris vendredi. Et puis, effectivement, on le disait hier, d'autres députés, dont Louis Boyard, que j'interrogerai tout à l'heure. Tiens, si vous l'aviez devant vous, vous lui poseriez quoi comme question, vous, Christian?
Je lui demanderais ce qu'il espère. Pareil, la même chose, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il espère en soutenant ces...
ces blocages, quoi, parce que pour moi, le blocage, c'est une aberration. Bon, moi, j'ai toujours été de gauche, hein, sauf depuis qu'il y a Mélenchon. Donc voilà, donc.
Non, mais cela dit, c'est très intéressant de vous entendre. Et on sent bien d'ailleurs qu'en ce moment, autour des élections européennes, en tout cas, si on en croit les sondages, c'est vrai que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon sur se focaliser grandement, enfin, en tout cas, parler essentiellement en ce moment de la question du conflit Gaza-Israël. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de le faire remonter dans les sondages, plutôt le contraire, hein, puisque les estimations mettent la France insoumise autour de 6%. Mais Christian, c'est quand même intéressant. Pour vous, c'est le point de rupture.
Oui, tout à fait.
Christian, restez avec nous, parce que je crois qu'Ali n'est pas tout à fait d'accord. Bonjour Ali.
Bonjour.
Comment ça va Ali ? Vous êtes dans la Loire, où ça exactement ?
Là, je suis pas dans la Loire, je suis en Haute-Loire, là, carrément.
Vous êtes en Haute-Loire, quoi. C'est-à-dire, voilà. J'aime bien, c'est waouh,
Je suis en train de finir ma tournée.
Alors, à votre tournée de quoi, vous, Ali?
Moi, je recharge les magasins.
Vous rechargez les magasins, et des magasins de quoi? Parce que Christian, Lidl. Il porte la presse. Vous, c'est Lidl. Voilà, très bien. Donc, grâce à vous, Ali, on va pouvoir aller faire ses courses aujourd'hui. Ali, vous en pensez quoi, vous, de ces blocages, alors? Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian ou pas du tout?
Alors, je suis pas d'accord avec Christian, puisque j'ai pris comme exemple au standard mai 68, dans le sens où malheureusement, on a le droit de manifester dans ce pays, donc continuons à le laisser.
Ouais.
Tout le monde a le droit à la parole. Après, je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui se font dans ces manifestations, notamment la récupération politique de la France insoumise qui m'insupporte comme pas possible, puisque s'il y avait une guerre entre les choux de Bruxelles et le souffleur, il serait dedans, hein. Et en fait, moi, voilà, je peux comprendre.
J'ose pas rire, Ali, parce que comme je reçois tout à l'heure Louis Boyard, ça fait pas sérieux de ma part. Mais ouais, j'avoue que votre guerre entre le souffleur et le chou de Bruxelles m'intéresse.
Si je peux me permettre, Apolline, voilà, moi, un exemple, voilà, d'entendre encore Louis Boyard s'exprimer. Il a quel âge? 24, 25 ans?
Oui, mais il est député. Attendez.
Oui, mais c'est là où c'est ça qui me pose problème dans ce pays, c'est que à force de vouloir donner la parole à tout le monde, on finit par la donner à n'importe qui.
Après, j'estime que ceux qui nous représentent, je crois beaucoup quand même à la démocratie représentative. Après, on aime, on n'aime pas, mais enfin, c'est quand même la question aussi des élections du peuple. Mais Ali, sur cette question des blocages, vous dites, je trouve que c'est important, on a le droit de manifester.
Le problème des blocages, moi, je vais vous le dire. Pourquoi ils manifestent? Pourquoi ils bloquent? Parce que le problème du pays dans lequel on vit ne se mouille pas assez, n'a pas pris parti. Et le problème, c'est que on fait beaucoup la comparaison dans laquelle je suis d'accord. On s'est insurgé quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Là, c'est Israël qui rattaque la Palestine. Hein. Mais bon, il y a eu des faits avant. En fait, il faut arrêter de choisir un camp. Cherchons diviser et à rassembler.
Après, vous-même,
en fait.
Ali, vous dites qu'il y a eu des faits avant. C'est-à-dire, vous rajoutez qu'il y a eu des faits avant. Parce qu'effectivement, quand même, il y a une question de provocation de la guerre. C'est-à-dire que j'imagine que quand vous dites qu'il y a eu des faits avant, vous parlez en l'occurrence de l'agression du 7 octobre.
Exactement, mais bon, c'est pareil. Après, il y a eu de la surenchère avant, parce que ce n'est pas un conflit qui date du 7
évidemment,
octobre. C'est
ce que... Évidemment.
Ça, le problème, c'est que beaucoup de gens l'ont oublié. On nous rappelle beaucoup les faits du 7 octobre, mais ça date pas du 7 octobre. C'est un fait historique. J'ai 35 ans, j'ai grandi avec ça, malheureusement.
Évidemment, et ça nous a largement devancé, malheureusement, comme vous dites. Mais Ali, sur cette question de la cause et sur la question de la forme, c'est-à-dire manifester, vous dites, moi, je trouve qu'il faut manifester et qu'il faut utiliser ce droit de manifester. Est-ce qu'il faut l'élargir?
Il faut manifester dans le sens où, pour moi, la manifestation... Aujourd'hui, elle est aussi pour la France ou contre la France. Nous, on attend, enfin moi j'attends, pour ma part, j'attends que Emmanuel Macron prenne parti comme il l'a fait entre la Russie et l'Ukraine. Je suis désolé, dans chaque guerre, on a toujours pris parti, mais là, c'est silence radio en fait. On a fait des blocages, on a fait des embargos sur les produits russes, d'ailleurs qu'on paye encore aujourd'hui. Hein. On a fait des embargos, on a bloqué tout ce qui venait de Russie parce qu'ils faisaient la guerre. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à se dire « Ah bah ouais, mais non, il s'est passé ça. » Non, c'est soit on décide de rassembler, soit on prend parti et on décide de diviser. Mais on ne peut pas rester à regarder et ne pas avoir
d'avis. Donc, de ce point de vue-là, vous comprenez que les étudiants, même si j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la forme, mais vous comprenez que les étudiants, pour le coup, manifestent et interpellent, obligent en quelque sorte le gouvernement à sortir d'une forme, vous dites, de non-réponse.
Voilà, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, hein, parce que ils ont des slogans aussi. Voilà, personne aujourd'hui ne mérite de mourir, personne ne mérite d'être exterminé. Moi, je suis croyant, il y a que le bon Dieu qui décide de ça pour nous. Mais de là, voilà. Après, moi, vraiment, ce que je pense actuellement, c'est il va falloir que la France se mouille pour pouvoir calmer ça, en fait.
Merci
soit
beaucoup.
Soit divisé, soit rassemblé.
Merci Christian et Ali, merci à tous les deux d'avoir débattu ce matin. On poursuit bien sûr, on vous attend au 32-16, il est 6h51.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, racontez-nous Nicolas.
Et je vous raconte l'histoire de la décision historique qu'avaient pris les Allemands de débrancher leur centrale nucléaire. Et bien on apprend que les ministres étaient très mal informés.
Et vos histoires Charles?
Eh bien je vais tenter de lancer la carrière d'acteur de Nico et Manu.
Ils sont prêts, ils sont au taquet, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans 7 minutes, il sera 7h. Excellent réveil sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h et voici le programme de la suite de la matinale. À 7h10, le témoignage d'un directeur d'école élémentaire de Seine-Saint-Denis. Il dénonce des menaces dirigées contre lui parce qu'il serait, je cite, anti-musulman. Une accusation portée par un mystérieux collectif. Ce directeur d'école nous en dit plus en direct dans 20 minutes. 7h40, Gérard Depardieu devant la justice. Oui, ce sera en octobre prochain. Il est accusé d'agression sexuelle. On y revient avec Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, auteur d'un livre d'enquête sur la chute du mythe du cinéma français. Elle nous donnera des nouvelles de Gérard Depardieu. Et puis à 8h30, c'est Louis Boyard, le député de la France Insoumise, qui sera mon invité dans le face-à-face. Il était hier aux côtés des étudiants de la Sorbonne.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous Nicolas Poincaré. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire d'une décision historique qui a été prise sur la base d'informations tronquées.
Oui, et ça se passe donc en Allemagne et ça provoque là-bas un énorme scandale. Il y a tout juste un an, en avril 2023, les trois dernières centrales nucléaires du pays étaient déconnectées. L'Allemagne devenait le premier grand pays européen à complètement sortir du nucléaire. Mais aujourd'hui, un an plus tard, l'Allemagne s'aperçoit que ce choix a été fait en s'appuyant sur des informations tronquées. On savait déjà que les deux ministres concernés, celui de l'économie et de l'environnement, étaient deux écologistes hostiles au nucléaire. Mais ce que l'on découvre, c'est que ces ministres n'étaient en plus pas totalement informés. Par exemple, en mars 2022, une note interne du ministère de l'Environnement conclut que la prolongation des centrales nucléaires reste possible et sûre. Mais le rapport transmis quelques jours plus tard au ministre dit exactement le contraire. Il affirme que le prolongement poserait un problème de sécurité. Un autre rapport estimait juste après le début de la guerre en Ukraine que le maintien des centrales nucléaires permettrait de faire baisser les prix de l'électricité. Ce rapport est parvenu entre les mains d'un secrétaire d'État très écolo qui a tout simplement oublié de le transmettre à son ministre.
Oublié.
Voilà. Il apparaît donc que cette sortie du nucléaire en Allemagne a été prise pour des raisons idéologiques et au prix de mensonges par omission ou bien de mensonges tout court. Le porte-parole du Parti libéral, qui fait partie de la coalition au pouvoir, résume les choses ainsi. Sur l'abandon du nucléaire, on a été mené en bateau.
Quelles ont été les conséquences de cet abandon?
Alors la sortie du nucléaire a forcé l'Allemagne à utiliser ses vieilles centrales à charbon polluantes. Le pays a tout misé sur les énergies renouvelables, l'éolienne et le solaire, mais pour l'instant elles ne permettent pas de compenser la fermeture des centrales nucléaires et par conséquent le prix de l'électricité est très élevé. Le débat aujourd'hui porte sur la question très simple, faut-il relancer ces centrales. C'est ce que promet le patron de la CDU, Friedrich Merz, qui pourrait bien être le prochain chancelier. Ça paraît fou, mais c'est possible. Les centrales allemandes ont juste été débranchées, pas démantelées. Et elles pourraient donc être aussi facilement rebranchées si la droite gagnait les prochaines élections.
Passionnant, s'ils ont lu les rapports.
Voilà, maintenant qu'on les connaît.
On ne sait pas d'ailleurs si ceux qui ont ostensiblement caché ou omis ces rapports vont être
alors l'affaire n'est pas finie, ça provoque un énorme scandale et il pourrait y avoir des poursuites.
6h56, Charles.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Oui, mais voilà, Charles a déniché une petite annonce surprenante.
Oui, si vous avez la soixantaine et que vous portez des lunettes, c'est peut-être l'occasion de lancer votre carrière de comédien.
C'est marrant, Nicolas Poincaré remet ses lunettes.
Voilà. Alors, appel à candidature lancé du côté de Nantes, où sera bientôt tournée la série Mémoire vive pour une diffusion sur M6. Le réalisateur s'appelle Arnaud Malherbe, rien à voir. Non, mais pour le tournage, il recherche des figurants assez classiques, des hommes, des femmes qui pourraient jouer des passants, un chauffeur de taxi, un employé de piscine ou encore des policiers, mais surtout
employé de piscine.
Non,
c'est pas pour ça.
Parce que la production recherche activement un sosie de Derrick.
Le
casting concerne.
Faut des lunettes jaunes.
Je précise.
Faut des lunettes légèrement fumées jaunes.
Oui, les hommes entre 60 et 90 ans avec une forte ressemblance à l'inspecteur Derrick.
Non, ça marche pas, Manu et Nico.
Non, ça vous arrive jamais dans la rue quand vous dites
avec un bon maquillage.
Oh non, ça c'est pas sympa parce que Derrick il est quand même pas. Bon. Non, vous êtes beaucoup plus beau que Derrick.
Merci.
Oh Nicolas,
merci,
vous êtes après. Très beau.
C'est le plus beau compliment que j'ai jamais entendu.
C'est plus beau que Derrick.
Ouais.
Ah, comment
bah, moi non plus.
Et moi, je suis plus beau qu'un Derrick.
Il est 6h57. Il n'y a rien à rajouter. Il est 6h57 et vous êtes bien sur RMC.